Nous sommes en train de regarder les deux derniers versets de l'Épître de Jacques. Nous sommes rendus dans Jacques au chapitre 5, les versets 19 et 20. Puis le titre du message que j'apporte aujourd'hui, c'est « Prier et chercher à ramener ceux qui s'éloignent ». Quelle est la pensée de Dieu envers ceux qui s'éloignent de la vérité? Comment est-ce que Dieu, dans son être intérieur, qu'est-ce que Dieu pense lorsqu'il voit de ses enfants qui s'éloignent de la vérité? Puis l'autre question qu'on peut se poser, quel devrait être le cœur des chrétiens envers ceux qui s'éloignent? Je crois qu'il est important de comprendre comment Dieu pense ou à quoi Dieu pense lorsque des gens qui s'éloignent. Ça va nous aider à nous qui sommes chrétiens à avoir un cœur selon Dieu envers ceux qui s'éloignent de la vérité. Dans Jacques chapitre 5, les versets 19 et 20, Jacques nous dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauve un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Je sais qu'il y a bien des gens qui ne croient pas que le péché, ou l'endurcissement, ou le refroidissement, ou les fausses doctrines peuvent nous éloigner du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont dans leur théologie, une fois que tu as accepté Jésus, tu es scellé, tu appartiens à Jésus pour l'éternité, puis tu peux pas perdre ton salut. Mais on voit que ça va en contradiction avec ce verset-là. Ce verset-là nous dit que tu peux avoir été sauvé, parce que ce verset-là s'adresse à des chrétiens, ça dit bien, Jacques nous dit au verset 19, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est éloigné de la vérité. » Donc, c'est possible qu'un chrétien, parce que Dieu nous a restés libres, il nous a créés libres de prendre des décisions, il met devant nous des choix, puis nos choix ont des conséquences éternelles, puis on est responsable de nos choix, de nos décisions que nous prenons. Puis il y a des décisions que nous prenons qui nous approchent de Dieu, qui nous amènent plus proche de Dieu, qui nous fait vivre des expériences encore plus grandes avec Dieu. Puis il y a d'autres décisions que lorsqu'on les prend, ça nous refroidit, ça nous endurcit, parce que c'est des décisions de pratiquer des péchés, des choses que Dieu aime pas, où on a laissé rentrer des faussetés, des fausses doctrines, puis ça nous éloigne de la vérité. Puis il y a des conséquences lorsqu'on est éloigné de la vérité. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous disent que les chrétiens peuvent s'éloigner du Seigneur. Il faut être conscient de cela parce qu'on doit être vigilant, on doit être solidement ancré sur la parole de Dieu pour pas se laisser tromper ou séduire par ce qui peut nous arriver autour. Dans 1 Jean 2:28 par exemple, Jean, l'apôtre de l'amour, nous enseigne « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Là, il nous demande de demeurer en Jésus, « afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, puis qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » On voit dans ce passage-là que l'apôtre Jean nous exhorte à demeurer en Jésus, à s'ancrer en Jésus, à persévérer dans la foi en Jésus, parce que le jour qui va paraître, faut qu'on ait de l'assurance, qu'on soit pas trouvé confus et éloigné. Quand tu es confus en étant chrétien, c'est que tu es rendu mêlé. Tu comprends plus les choses de Dieu. T'es mêlé, tu sais plus c'est quoi le chemin, puis t'es éloigné de lui. T'es débarqué du chemin resserré, puis t'es rendu dans le chemin large. Il y a d'autres versets, comme dans 1 Timothée 5:15, l'apôtre Paul, lui, il nous a enseigné que quelques-unes, en parlant des veuves, se sont détournées pour suivre Satan. Là, c'est rendu un point grave quand on parle que des chrétiens qui suivaient Jésus, qui étaient en communion avec Jésus, qui persévéraient dans la foi en Jésus, qui étaient parmi les disciples, puis qui se sont égarés loin de la vérité au point de suivre Satan dans ses tentations, dans ses, dans ces épreuves, dans ces combats, puis ça a l'air des fois même attrayant au point qu'on ait le goût de suivre le diable. Dans 1 Timothée 4.1, Paul nous parle aussi que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça nous parle encore qu'il y a des gens qui vont abandonner la vérité, ils vont abandonner la foi dans la vérité pour s'attacher à des démons, des esprits séducteurs qui ont des doctrines contraires à celles de la parole de Dieu, des gens qui enseignent des faussetés, qui prêchent des choses qui font pas partie de la vérité de la Bible. Puis la Bible est claire dans ces passages-là, lorsque tu suis des religions qui sont autour, les religions de ce monde, mais tu es en train de suivre le diable, parce qu'il y a une seule vérité enseignée par la parole dans la parole de Dieu, prêchée par le Saint-Esprit, puis c'est là-dedans qu'on doit mettre notre foi. Il y a un paquet de choses qui forment la vérité, un paquet d'enseignements qui forment la vérité, puis la Bible nous exhorte dans ces passages-là à demeurer dans la vérité. On peut pas faire d'alliance avec du monde qui prêche le contraire de ce qui est écrit. Sinon, la Bible appelle ça des doctrines de démons, puis c'est des esprits séducteurs, des esprits pour nous tromper, pour nous faire sortir du chemin de Dieu. Ils sont là pour essayer de nous mêler, c'est comme une épreuve qui sont là devant nous dans le but de nous éprouver pour voir si nous allons persévérer dans la vérité. Dieu permet cela dans le but de tenter ceux qui sont là dans la foi, puis de voir si on va persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Hébreux 10, 39 nous dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » C'est un passage-là qu'on confirme encore comment ce qui est important de demeurer en Jésus, de demeurer dans la vérité. Parce que ceux qui se retirent de la vérité, ceux qui s'égarent, ceux qui sont entraînés, peu importe la raison pour laquelle ils se retirent de la vérité, mais ils se retirent pour se perdre. Puis Dieu nous appelle à persévérer dans la foi, à persévérer dans la vérité. Mais on va apprendre à connaître le cœur du Seigneur envers les gens qui ne le connaissent pas, envers les gens qui marchent loin de la vérité. Est-ce que le Seigneur veut les frapper? Est-ce que le Seigneur... Oui, Dieu est en colère, ça faut le dire. Dieu est en colère, mais Dieu aime quand même ses créatures. Dieu, dans son amour, il fait tout pour essayer de ramener les gens dans la vérité. Puis le cœur du Seigneur, c'est qu'une brebis perdue, mais il veut les voir retrouver. Il veut les ramener. Il veut les amener dans la vérité. Puis à chaque fois qu'une brebis, une personne accepte Jésus, ou une personne vient à la vérité, mais c'est le party dans le ciel. Puis ça, Jésus nous a enseigné cette vérité-là dans Luc, le chapitre 15, les versets de 1 à 7. Tous les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Puis les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, puis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, puis de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Dans ce passage-là, ça nous en dit gros sur le cœur de Dieu, sur le désir de Dieu de vouloir ramener les brebis perdues. Que ce soit des gens qui ne l'aient jamais connu ou que ce soit des gens qui connaissaient le Seigneur. Quand une brebis est perdue, c'est pas dans le désir de Dieu que la personne reste dans l'égarement. Il y a d'autres versets qui nous en parlent. Il dit, Dieu veut pas que les méchants périssent. Il veut qu'ils changent de vie, qu'ils changent de voie et qu'ils vivent. Dieu appelle les hommes à la repentance. Puis là, Jésus, quand il était sur la terre, il allait voir les gens de mauvaise vie, puis il mangeait avec eux, puis les pharisiens, puis les publicains, toutes les gens étaient étonnés de voir que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Mais Jésus s'est expliqué pourquoi il allait rencontrer ces gens-là. Jésus n'allait pas chercher ceux qui se portent bien, il allait chercher les malades, les gens qui ont le besoin, qui ont des besoins. Ceux qui savent qu'ils sont pécheurs, c'est les gens malades, pas ceux qui se pensent justes, il est venu chercher les pécheurs. Puis là, il nous dit que quand une personne perd une brebis, mais il la cherche la brebis. Il va laisser même les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Puis il va chercher jusqu'à temps qu'il l'ait trouvée. Mais Dieu, présentement, il est en train de chercher les brebis perdues. Il est en train de chercher les brebis égarées. Il est en train de chercher des brebis pour les ramener à lui, pour les sauver. Puis quand une personne accepte Jésus comme son sauveur personnel, mais c'est le party dans le ciel. Il dit dans la parole au verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu tend les mains continuellement vers les gens autour pour les attirer à lui. Encore, Jésus nous a donné la parabole de l'enfant prodigue. Ça nous en dit long encore sur le cœur de Dieu envers les rétrogrades repentants. Parce qu'il faut le dire, il y a des chrétiens qui sont rétrogrades, il y a des chrétiens qui sont retournés dans leur vie de péché. Ils sont dans le monde. Ils vivent dans le monde conformément au monde, puis ils vivent dans leur vie de péché. Puis ils sont, la Bible appelle ça rétrograde. Puis Dieu, c'est ce qui est en train de nous parler par la bouche de Jacques, il y a des gens qui se sont égarés loin de la vérité. Dieu fait tout pour essayer de les ramener. Mais c'est quoi le cœur de Dieu lorsqu'une personne s'est égarée puis qu'elle est repentante? Mais dans Luc au chapitre 15, les versets 20 à 24, c'est suite à la parabole d'un enfant prodigue. Un enfant qui un jour, il a dit à son père, « Père, redonne-moi la part de mon héritage qui doit me revenir, puis salut bye, moi je m'en vais vivre dans ma vie, m'en vais triper dans ce monde. » Puis le père n'a pas résisté, il a donné la liberté à son fils, hein? Il a donné ses affaires, puis là son fils est parti. Puis la Bible nous dit que le fils prodigue, il est allé dépenser toute sa richesse, tous ses biens, dans les plaisirs de ce monde. Il a vécu une vie d'un gros trip, comme qu'on dirait en québécois, un gros trip pendant un certain temps, jusqu'au temps où il avait tout dépensé, puis là il n'y avait plus rien pour vivre. Puis là, il est obligé de travailler dans un travail que pour lui, faut comprendre que c'est un juif, ça s'adressait à Jésus, il était juif, puis il parlait dans le contexte des juifs, mais il est obligé d'aller nourrir des cochons, il est travaillé dans un contexte où il avait à nourrir des animaux impurs à leurs yeux, puis il aurait même désiré manger ce que les cochons mangeaient tellement qu'il avait faim, puis il n'avait plus rien à manger. Puis là, dans sa misère, quand il a goûté la misère, il a compris comment ce qui était bien auprès de son père, puis comment que les mercenaires, les employés de son père étaient bien traités. Puis il s'est dit, « Je vais me repentir. Je vais aller voir mon père, puis je vais lui dire que je suis même pas digne d'être appelé son fils, puis lui demander de me traiter comme un de ses serviteurs. » Puis là, il s'est levé. On est rendu dans Luc au chapitre 15, les à partir du verset 20. Il se leva puis alla vers son père. Comme qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne de t'appeler ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, puis il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, puis ils commencèrent à se réjouir. » Wow! Ça, c'est un beau passage qui me touche grandement, de voir comment Dieu le Père, comment Dieu le Père aime ses brebis, il aime ses enfants. Même si c'est quelqu'un qui s'est rebellé contre lui, Dieu a encore un cœur d'amour envers ses brebis qui se sont éloignées. Le fils qui était loin, il a tout dépensé ses richesses, il a vécu selon le monde, dans le péché, dans la débauche, jusqu'au jour où il a réalisé son état, comment est-ce qu'il était perdu, puis comment est-ce qu'il pourrait être bien auprès de son père. Puis il s'est repenti. Il a confessé sa faute, qu'il a péché contre le ciel, puis contre son père. Puis qu'il a dit qu'il s'est humilié, puis il est allé voir son père, puis il a demandé pardon à son père. Puis il a dit, je suis même pas digne de t'appeler ton fils, mais traite-moi comme un de tes serviteurs. Ça nous dit dans ce passage-là que quand le père a vu son fils revenir, il était heureux, il était content, il s'est mis à pleurer. Puis là, il a couru vers son fils. Quand Dieu voit une personne qui se repent, même si elle a vécu dans le péché, même si elle a déshonoré Dieu, même si elle a péché contre Dieu, elle s'est repentie, Dieu court, tend ses bras, puis il recueille sa brebis qui s'est égarée. Ça nous dit que quand il a retrouvé son fils, puis son fils, il a dit qu'il était plus digne d'être appelé son fils, mais le père, il a dit, apportez vite la plus belle robe, puis l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, puis des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, puis faisons la fête. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Voyez-vous, le père confesse réellement l'état du fils. Il était mort, il était perdu. Mais à cause de sa repentance, puis à cause qu'il a retourné vers son père l'a accueilli, son père lui a donné une robe neuve. Ça symbolise la justice, que le père nous pardonne nos péchés, puis qu'on est déclaré encore juste. Il lui a donné un anneau au doigt, c'est en signe d'alliance. Dieu renouvelle son alliance envers les pécheurs rétrogrades. Dieu veut que, même s'ils sont morts, qu'ils reviennent à la vie. Dieu veut redonner la vie à ceux qui sont morts spirituellement, à ceux qui appartenaient à Dieu, mais qui l'ont abandonné. C'est pour ça que Jacques est en train de nous dire, si quelqu'un parmi vous s'est éloigné de la vérité, Dieu, dans son cœur, il est prêt à les accueillir. Il y a des gens qui se sont éloignés de la vérité, puis qui sont rendus morts spirituellement, sont séparés d'avec Dieu, puis Dieu les accueille encore. Ils sont perdus, mais il veut les retrouver. Puis ça va être la fête, parce qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La joie est là pour les ceux qui n'ont pas besoin de repentance, de ceux qui appartiennent à Dieu, mais il y a encore plus de joie lorsqu'il y en a un qui revient au Seigneur. Quelle est la meilleure approche lorsqu'on est témoin qu'un frère est rétrograde puis qu'il a abandonné le Seigneur? Quel devrait être notre cœur face à ces gens-là? On vient de voir comment est-ce que Dieu, lui, il voyait cela, comment est-ce que Dieu, il était tourné vers le Fils qui était repentant, comment est-ce que Dieu était prêt à l'accueillir. Mais notre approche doit être la même. Dans 1 Jean 5, 16, ça nous dit, c'est l'apôtre Jean qui nous parle, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, » puis là, dans ce passage-là, il y a un petit point qui est un peu dur à comprendre, mais je vais vous l'expliquer. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, » ça veut dire un péché qui mène pas à la mort sans retour, qu'il n'y a pas de possibilité de revenir de cette mort-là. C'est une mort définitive. Mais si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène pas à la mort définitive, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, c'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. La Bible nous parle qu'il y a un péché qui mène à la mort définitive. C'est un péché-là, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Mais là, il nous dit, si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui mène point à la mort. Ça veut dire, il a pas fait de péché qui, comme le blasphème du Saint-Esprit. Mais il a fait des péchés. Mais la Bible a dit, si tu vois ton frère qui a fait un péché, prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Ça veut dire que Dieu va ressusciter ce frère. Dieu va, c'est un péché qui mène pas à la mort définitive, mais il est quand même mort, puisque Dieu va lui redonner la vie suite à ta prière. Dieu veut que tu pries pour ceux qui pêchent. Ils sont peut-être rendus morts spirituellement aux yeux de Dieu, mais Dieu veut redonner la vie à ce frère. Il dit, prie, prie pour ce frère, puis Dieu va lui redonner la vie. Quand on parle du péché impardonnable, c'est le blasphème du Saint-Esprit, c'est le seul péché qu'on peut pas revenir à Dieu. On est coupable d'un péché grave. Puis ça, c'est un péché éternel que la Bible nous dit. Je vais vous lire le passage où ce qui nous parle de ce péché-là, dans Marc 3, 20 à 22. Et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébuth, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Wow! Là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem avaient dépassé la limite du blasphème. Il est en train de dire que Jésus, l'esprit qui est en Jésus, c'est un démon. La Bible nous est claire sur ce point-là, qu'il venait de confesser que l'esprit qui était en Jésus, c'était Satan, c'était Belzébuth. Quel blasphème! C'est l'esprit de Dieu qui est en Jésus, c'était pas... On voit qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Puis là, quelques versets plus loin, dans Marc 3, 28, Jésus nous parle, il nous donne une réponse face à ce péché-là, comment c'est grave quand quelqu'un dit que l'Esprit qui est en Jésus, c'est Satan. Dans Marc 3, 28, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Dans ce passage-là, Jésus, il met la ligne, il met la limite. Les péchés, les blasphèmes, même contre Jésus, contre les humains, ça peut être pardonné. Mais quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, il obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus, il dit ça parce qu'ils ont dit que Jésus t'a possédé d'un esprit impur. Si on déclare que le Saint-Esprit qui est en Jésus, c'est un esprit impur, on est coupable d'un péché éternel. Puis c'est ce péché-là que Jean, dans 1 Jean 5,16, nous dit, si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui mène point à la mort, ça veut dire n'importe quel péché, t'as pas atteint la mort sans retour, là. Tu peux être pardonné. Là, tu peux prier, puis Dieu va donner la vie à ce frère-là. Mais s'il commet le péché qui mène à la mort, le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Ces enseignements-là sont dans le but de nous mettre en garde qu'un chrétien doit, premièrement, s'il s'est éloigné du Seigneur, si on s'aperçoit qu'un frère s'est éloigné du Seigneur, c'est ce qu'il nous dit, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, ben c'est ça qui est le point. On faut pas oublier qu'il est important de ramener les frères, de travailler à ramener les frères qui se sont éloignés de Jésus. N'oublions pas que c'est important de ramener les gens au Seigneur parce que le sort final de ceux qui seront trouvés loin de lui à son retour, c'est la perdition. Tant qu'un frère n'a pas traversé la voie de non-retour, il peut revenir au Seigneur. Jean nous dit « Prie, puis Dieu va donner la vie à ce frère. » Puis Jacques nous dit dans Jacques 5:20, « Sache que si tu ramènes un pécheur de la voie où il s'était égaré, tu vas sauver une âme de la mort, puis tu vas couvrir une multitude de péchés. » C'est pour ça qu'il est important d'avoir le cœur de Jésus. De voir comme l'enfant prodigue qui était loin, puis il est revenu repentant. Faut donner la chance aux gens qui se sont égarés loin du Seigneur, de pouvoir venir au Seigneur, de se repentir, de demander pardon, puis de marcher avec le Seigneur, d'être renouvelé, de marcher avec le Seigneur, parce que celui qui ramène un pécheur de la voie où s'est égaré sauve un âme de la mort, puis tu vas couvrir une multitude de péchés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la meilleure approche? Prions, comme dit dans 1 Jean 5,16. Si quelqu'un voit un frère commettre un péché, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. C'est dans ce contexte-là que nous sommes en train d'étudier les deux derniers versets de Jacques. Jacques venait de dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est juste un ou deux versets au-dessus de ce qu'on vient de lire. Il veut qu'on sache que nos prières sont efficaces. Puis si un frère a péché, mais notre prière fervente a une grande efficacité pour ramener les frères dans la voie de la vérité. Prions. Père, je reconnais en ta parole qu'elle est vérité. Nous croyons, Seigneur, que tu veux pas que les gens périssent, que tu veux user de patience afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seigneur, continue ton œuvre envers ceux qui ont abandonné la vérité, qui ont abandonné ta parole. Ramène-les dans tes voies. Ramène-les en communion avec toi, qu'ils puissent réaliser leur misère et leur état et se repentir. Guide-nous vers ces gens-là, qu'on puisse aller les voir et les encourager à réintégrer les rangs puis à marcher avec le Seigneur. Seigneur, utilise-nous pour cette mission. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous donne de la sagesse et surtout l'amour nécessaire pour les accueillir, pour les entourer. Nous remettons nos ventres tes mains dans le nom de Jésus. Amen.